largué. Donc je laisserai par contre la parole à nos intervenants pour vous expliquer tout sur la loi de semences. Mais par contre, mon objet à moi, c'est de vous présenter le point de vue d'un agriculteur par rapport donc à cette problématique. Donc pour commencer la présentation, donc présentation du Lauragais agricole, puisque nous y sommes en plein cœur. Donc aujourd'hui, sur les références que j'ai récupérées, bon, qui sont des références de 2004, hein, donc vous pouvez voir là, l'utilisation de la sole en Lauragais, avec 4% de surface fourragère, 11% de surface gelée, et puis 85% de surface qui sont vouées à la grande culture. Donc ça classe notre Lauragais quand même en zone de production céréalière, avec ses 85% donc, destinés à la céréale. Deuxième constat immédiat qu'on peut faire, c'est que la loi sur les semences fermières aura des répercussions sur notre type d'agriculture. Donc pour aller un peu plus loin sur dans cette analyse de l'assolement du Lauragais, donc il faut différencier deux types de cultures qui ont des impacts sur les semences, sur le choix d'utilisation de semences fermières ou d'autres types de semences. Donc on peut les classer en deux types de cultures, cultures d'été donc qui font appel à énormément de semences hybrides, sauf pour le soja qui pouvait lui être ressemer et on pouvait concevoir cette culture à base de semences fermières. Et ensuite, donc, dans la deuxième partie, les cultures d'hiver où on retrouve blé tendre, blé dur, orge, avoine, pois, là, avec en totalité donc, la sole, avec un potentiel d'utilisation de semences fermières. Donc, cette classification présente les enjeux de ce dossier. Maintenant, si on fait abstraction de toutes les contraintes liées à l'épuration, au stockage et au traitement des semences sur la ferme, ces faits-là font apparaître en fait une variante. Donc, blé tendre, orge, avoine, pois et soja rentrent pleinement dans le schéma. Bon, ceci ne veut pas dire pour autant que ce soit la réalité aujourd'hui et surtout pas demain. Par contre, le blé dur, là, pour cette culture-là qui fait partie d'une des cultures d'hiver, on est dans un schéma qu'on peut qualifier de bâtard. Puisque si, techniquement, on peut utiliser de la semence fermière, par contre, une règle européenne fait que la donne est complètement bouleversée. Donc une règle européenne issue de l'article 68, qui est un soutien lié à la production de qualité. Et cette démarche qualitative a comme critère d'éligibilité l'utilisation de semences certifiées. Donc après cette analyse donc, du potentiel et de l'utilisation dans la réalité pour le Lauragais, la SAU représente donc, dans les 85% utilisés en production céréalière, vous avez 42% de blé dur et 32% qui sont représentés par du maïs, tournesol et un petit peu de sorgho. Donc tout ça explique que en fait, ici en Lauragais, jusqu'à aujourd'hui, très peu d'agriculteurs se sont inscrits dans le schéma d'utilisation de semences fermières. Donc pour en terminer avec l'analyse factuelle, pour aller quand même jusqu'au bout, donc on s'aperçoit quand on regarde le catalogue aujourd'hui des variétés, notamment de blé dur qui sont à disposition des producteurs, on retrouve 70 variétés aujourd'hui de cet ordre-là, qui permettent donc à l'agriculteur de produire du blé dur et surtout des margés, donc à cet article 68. Alors, c'est vrai qu'il y a un potentiel génétique très intéressant derrière ça, mais c'est vrai aussi que 70 variétés, on pourrait dire, mais la soupe est bonne, partageons-la. Hein. Donc ensuite, deuxième point sur lequel je voudrais quand même insister en tant qu'agriculteur, donc c'est l'évolution de la PAC, puisque celle-ci quand même aura un impact sur notre type d'agriculture. Hein. Donc l'évolution de la PAC pour 2014-2019, on peut la résumer sur deux grands axes. Le premier axe, c'est le reverdissement de la PAC. Donc celui-là veut dire que dès 2014, 30% des DPU, c'est-à-dire des primes européennes, DPU historiques, vont disparaître pour faire place à un DPU national. Et ensuite, la deuxième partie, c'est convergence des aides, c'est-à-dire un nivellement horizontal de toutes les aides,
pour en arriver à un DPU national. Donc ça veut dire que les 70% restants seront réduits de façon progressive pour arriver au DPU national. Donc la Commission, elle, propose donc pour 2014 une première étape dans cette convergence de l'ordre de 40% du volume total du prix. Donc cette proposition, quand même, fait l'objet de contestations syndicales, ne serait-ce que par son caractère très violent. Ensuite, toujours dans le même cadre, donc les soutiens à la production de qualité qui ont accompagné le blé dur, parmi tant d'autres cultures, seront rediscutés. Donc, l'article 68 disparaissant, il devra faire place à un autre article, aujourd'hui on l'appelle 40 ou 38, c'est pas très bien fixé, mais ça veut dire que cet article sera renégocié, que les cultures éligibles seront renégociées. Bon, ça promet quand même de sacrées tensions au niveau agricole. Donc, le fait est que toute cette problématique autour des semences fermières fait que, pour nous, quel sera l'impact de cette loi sur notre agriculture? Donc, si ce n'est qu'avec toutes les évolutions, donc de la baisse des soutiens, le besoin de marge supplémentaire sera encore plus fort. En effet, quelles que soient les évolutions, dans notre métier d'agriculteur, la première chose qui baisse, c'est notre revenu. Donc l'utilisation de semences fermières est quand même un moyen de réduire les coûts de production et donc d'augmenter les marges. Deuxième point, et autre évolution aussi pour notre agriculture, donc l'apparition du programme Ecophyto avec ses objectifs de réduction de 50% des volumes de produits utilisés en termes de défense de la plante. Donc pour cet objectif, donc l'agriculteur, lui, devra raisonner en utilisant toutes les ressources disponibles. Et il en a une de disponible, c'est d'utiliser la résistance naturelle des plantes, la résistance qui est écrite dans leur patrimoine génétique. Alors peut-on considérer, avec ce qu'on a entendu, qu'une loi sur les semences fermières avec son retour vers la recherche pourra être la garante d'un catalogue suffisant? Et est-ce le seul schéma possible? Pour en terminer, nous sommes quand même en droit de nous demander si la reconduction d'une politique d'aide à la qualité avec comme critère la certification de semences permet le positionnement correct de nos cultures sur le marché et en même temps permet-elle d'avoir une constance dans le prix. Ou alors, en l'accompagnant d'une loi sur les semences fermières, est-elle une forme détournée de protectionnisme à l'égard d'un acteur industriel pour nos filières de production, donc pour l'occasion, les semenciers. Donc voilà, j'en ai terminé, moi, avec mon questionnement, la présentation du Lauragais et mon questionnement en tant qu'agriculteur par rapport à toute cette loi qui a donc été votée le 28 novembre 2011. Voilà.
Donc, je ne sais pas si s'il y a quelques questions d'ores et déjà autour du questionnement de Daniel, puisqu'il doit partir bientôt, peut-être qu'on peut le faire maintenant. S'il y a, on disait peut-être s'accorder une dizaine de minutes, s'il y a un ou deux allers-retours, s'il y a une ou deux personnes qui veulent poser des questions là-dessus. Une fois.